Chapitre 3, versets 1 à 6, Lettre à l'assemblée qui est à Sardes. Citation de l'Écriture. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Sardes écrit : Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, que tu as le nom de vivre et tu es mort. Sois vigilant et affermis ce qui reste, qui s'en va mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Souviens-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai sur toi. Toutefois, tu as quelques noms à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Fin de citation. Le Seigneur est présenté à cette assemblée comme celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Quelle que soit l'étendue de la puissance de Rome sur les nations, il n'en reste pas moins vrai que la plénitude de la puissance, vue dans les sept esprits de Dieu, appartient au Seigneur. Et, quel que soit l'éloignement envers la vérité, il peut donner la lumière céleste à son peuple par ceux qui sont symbolisés par les sept étoiles. Ainsi, nous savons qu'en dépit du pouvoir et de la présomption de Rome, des personnes ont résisté au mal de ce système. Hélas, quelle qu'ait été la résistance à l'erreur et la redécouverte de la vérité dans ce mouvement, que nous appelons la Réformation, il s'est brisé entre les mains de l'homme. Comme toujours, l'homme a failli à sa responsabilité. Il s'en est suivi le développement du protestantisme, qui a en effet le nom de vivre et représente ainsi la vérité devant les hommes, mais dans les faits, à ses yeux, le Seigneur doit dire « Tu es mort ». Nous pouvons bien être reconnaissants que cette position contre le romanisme a permis au peuple de Dieu d'avoir accès à la Bible et a réaffirmé la grande vérité de la justification par la foi. Mais hélas, la majorité se contentant d'orthodoxie, la Bible lui est devenue guère plus qu'une lettre morte, et les vérités n'étant pas reçues par une foi personnelle, leurs vies n'ont pas changé. L'un d'eux a dit : Rien n'est plus commun chez les protestants que d'admettre une chose comme parfaitement vraie, parce qu'elle est dans la parole de Dieu, sans la moindre intention d'agir en conséquence. Une telle condition ne peut que conduire au jugement du Seigneur. Sa venue trouvera tous les professants endormis, sans vie, comme le monde. 1 Thessaloniciens 5, versets 2 à 6. Néanmoins, de même que dans le romanisme corrompu et idolâtre se trouve un résidu dévoué, parmi l'orthodoxie morte du protestantisme, il y a quelques noms qui forment un résidu dont le Seigneur peut dire qu'ils n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs car ils en sont dignes. Au milieu d'une profession sans vie, ils ont marché personnellement avec Christ, et leurs noms seront retenus dans le livre de vie et publiquement reconnus devant le Père et ses anges. Versets 7 à 13, Lettre à l'assemblée qui est à Philadelphie. Citation de l'Écriture. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Philadelphie écrit : Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, car tu as peu de force, et tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Voici, je donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent être juifs, et ils ne le sont pas, mais ils mentent. Voici, je les ferai venir et se prosterner devant tes pieds, et ils connaîtront que moi je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira plus jamais dehors. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Fin de citation. À cette assemblée, le Seigneur ne se présente pas sous un aspect judiciaire, sur le point de juger, ni officiellement comme dirigeant les assemblées, mais plutôt dans ses attributs moraux comme le saint et le véritable. C'est en accord avec la condition morale de l'assemblée de laquelle le Seigneur peut dire « Tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. » Au milieu du déclin général, il chérissait la parole du Seigneur et y obéissait, et par-dessus tout, il maintenait jalousement la gloire de la personne de Christ et ne reniait pas son nom. Le Seigneur qui tient la clé peut l'utiliser en leur nom. Malgré toute la puissance de l'ennemi, il leur ouvre des portes pour servir, selon sa volonté, et ferme les portes qui conduiraient à un chemin contraire à sa pensée. Ils peuvent n'avoir que peu de force, et ne pas faire appel au monde comme le faisait Thyatire. Ils n'ont personne non plus pour conduire une grande réforme comme à Sardes. Mais s'ils ne sont marqués par rien de ce dont ce monde peut s'émerveiller, ils ont l'approbation du Seigneur, et au jour à venir, tout opposant apprendra qu'ils sont aimés du Seigneur. Dans cette assemblée, n'y a-t-il pas l'annonce du Seigneur qu'au milieu de la corruption croissante de la chrétienté et avant la fin de la période chrétienne, s'élèverait un témoignage aux vérités de la parole de Christ et à l'autorité suprême et à la valeur de son nom? Cependant, si au sein de l'obscurité ambiante Dieu suscite ce nouveau témoignage, nous sommes aussi prévenus que Satan cherchera à susciter un contre-témoignage par un réveil du judaïsme avec ses formes et ses cérémonies. Nous savons que le réveil de la vérité de l'Église, contenu dans la parole de Christ, a aussitôt rencontré une grande explosion de ritualisme et de superstition, par lesquels Satan a cherché à annuler la parole de Christ et à attirer les cœurs loin de sa personne, et ainsi priver les chrétiens de tout vrai service et de tout vrai culte. Si ceux-ci sont avertis qu'ils rencontreront l'opposition de Satan, ils sont aussi encouragés à l'endurer patiemment, sachant que s'ils sont gardés à travers les épreuves présentes, ils seront gardés de l'heure de la tribulation, qui vient bientôt sur la terre habitée tout entière. En raison de leur peu de force et du conflit constant dû à l'opposition de Satan qui cherche par de faux systèmes religieux à dérober la vérité aux saints, cette assemblée est spécialement exposée au danger de renoncer à défendre fermement la vérité qui leur a été recouvrée. Pour affronter ce danger, ils sont exhortés à tenir fermement ce qu'ils ont, la vérité, la valeur du nom de Christ, l'amour du Seigneur et son approbation. Abandonner ces grandes bénédictions entraînerait la perte de leur couronne comme récompense le jour à venir. Pour les encourager à tenir ferme, le Seigneur place devant eux sa venue qu'ils n'auront que peu de temps à attendre, car il vient bientôt. Le vainqueur, celui qui tient ferme, aura une brillante récompense au jour de gloire, tenant compte de l'avertissement du Seigneur de tenir ferme et se contentant de peu de force, et d'être donc peu estimé par le monde aujourd'hui, il aura une position de puissance au jour à venir. Le nom de Christ étant son tout au jour de son rejet, et dans un monde qui méprise de plus en plus ce nom, le nom de Christ sera écrit sur lui dans cette demeure de gloire qu'est la Nouvelle Jérusalem. Versets 14 à 22. Lettre à l'assemblée qui est à Laodicée. Citation de l'Écriture. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Laodicée écrit. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu fusses ou froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, « Je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » et que tu ne connais pas que toi, tu es le malheureux et le misérable, et pauvre, et aveugle, et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or passé au feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Fin de citation. Dans la dernière lettre, nous avons la solennelle issue du déclin croissant de l'Église quant à sa responsabilité tout au long de son histoire. Nous voyons aussi comment la grâce du Seigneur a été outragée et combien ces avertissements ont été peu écoutés. Néanmoins, nous voyons qu'au milieu de toutes les chutes, le Seigneur reste la ressource immuable de son peuple, et qu'au jour le plus sombre, il y a la plus riche bénédiction pour le croyant. En contraste frappant avec la grande profession chrétienne, qui n'a été ni fidèle à Dieu, ni un vrai témoin devant les hommes, le Seigneur se présente comme l'Amen, celui par qui chaque dessein de Dieu sera accompli, comme le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu, où tout sera selon Dieu. Passe alors devant nous un tableau solennel de la dernière étape de l'Église professante. Le déclin qui a commencé avec l'abandon du premier amour pour Christ se termine dans une telle indifférence envers lui que l'Église est insensible à ce qu'il soit dehors et qu'elle est sourde à tout appel qu'il leur adresse pour gagner leur cœur. La grâce qui nous a rendu l'accès à la Bible et nous a recouvré les grandes vérités concernant Christ et l'Église est tellement méprisée par la profession chrétienne qu'elle finit par utiliser la vérité pour s'exalter, se vanter d'être riche, de s'être enrichie et de n'avoir besoin de rien. Comme toujours, la vanité aveugle ceux qui se vantent sur leur véritable condition. La majorité satisfaite d'elle-même ne sait pas qu'aux yeux du Seigneur, elle est spirituellement malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue. Leur condition est abjecte pour Christ. Il ne peut que rejeter cette profession chrétienne. Néanmoins, la grâce du Seigneur leur conseille de se tourner vers lui pour trouver en lui ce qui répondra à leurs grands besoins pour obtenir les vraies richesses, afin que leur honte soit couverte et que leurs yeux soient ouverts pour voir en Christ non seulement celui qui peut répondre à leurs besoins, mais celui dont toute la personne est désirable. Ensuite, nous voyons qu'au milieu de ce sombre état de choses, des âmes aimées du Seigneur seront exercées par les reproches et les châtiments que l'amour peut juger nécessaires pour les ramener à lui. Le Seigneur se tient à leur porte, cherchant à trouver une place dans leurs affections en frappant patiemment. Lui ouvrir la porte, c'est sûrement lui donner une place dans le cœur, et donc revenir au premier amour. À ceci, le Seigneur dit « J'entrerai chez lui, et je souperai avec lui et lui avec moi. » Il entrera dans nos exercices et nos épreuves, et nous conduira dans les choses célestes. Ne voyons donc nous pas que, dans les derniers jours de la période chrétienne, le chemin deviendra très individuel, mais qu'il est possible pour tout individu de revenir au premier amour et ainsi de jouir de la plus haute bénédiction spirituelle de la communion secrète avec le Seigneur, même s'il n'y a pas de retour de la grande profession vers un témoignage public à l'unité. Le vainqueur qui ne se vante pas de richesses spirituelles, qui ne cherche aucune reconnaissance publique, mais se contente de l'approbation secrète du Seigneur, sera vu avec Christ sur son trône au jour de gloire.